Bonjour à toutes et à tous. Nous venons d'assister à la sortie, dans un silence formidable, de Laetitia avec son bouquet de fleurs. Et nous allons donc, que je tiens à remercier bien évidemment aussi, et nous allons démarrer cette matinée sur le thème qui a été choisi, celui de la fatigue. C'est un sujet intrigant, c'est un sujet questionnant, c'est... Ça va là ? Oui. Qui nécessite vraiment d'être posé dans un premier temps de manière suffisamment ouverte pour que l'on puisse ensuite chacun d'entre nous y repérer ce que l'on peut mettre derrière ce terme dans nos pratiques, dans nos vies professionnelles ou personnelles, de manière à ce que son ouverture, les multiples possibilités de définition qu'on peut lui attribuer soient peut-être un peu plus localisées. Alors, nous avons le plaisir ce matin d'accueillir à cette table trois intervenants qui vont se succéder avec dans l'ordre Éric Fiat, puis Rachel Chamou, puis Viviane Serron. Pour nous ouvrir à ce questionnement, on a souhaité, dans l'organisation de cette matinée, qu'il y ait, vous l'avez remarqué, suffisamment de temps pour des échanges avec vous, à partir de ce qui va être proposé, à partir de ce que ce terme « fatigue » vous inspire aussi dans vos pratiques, avec les enfants, avec les adolescents en particulier. Et nous aurons la possibilité de bénéficier à chaque fois dans ces discussions de l'éclairage philosophique qu'Éric Fiat pourra nous apporter. Alors, on va commencer par la première intervention qui serait donc celle d'Éric Fiat. Éric Fiat qui est philosophe, qui est professeur d'éthique médicale et hospitalière à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, dont très opportunément le dernier livre, « Ode à la fatigue », va venir éclairer cette matinée. Mais il a aussi écrit de nombreux ouvrages, je n'en citerai que deux, « La pudeur » en 2016, et puis « Grandeur et misère des hommes, petit traité de dignité », autant de réflexions à partir de son approche philosophique qui, j'ai eu la chance de l'entendre aussi dans d'autres univers professionnel dans le domaine des soins, nous avons la chance de bénéficier là d'un éclairage particulièrement précieux. Je lui cède donc la parole avant que les deux autres intervenantes ne nous parlent.
Alors, je suis philosophe. N'ayez pas peur. Enfin, j'essaie de l'être tout du moins. Et je vous remercie beaucoup de votre invitation. Et je voudrais dire à quel point je suis impressionné de devoir jouer le philosophe ce matin devant un maître philosophe qui se trouve dans l'assemblée. Un maître philosophe qui, même s'il a à peu près l'âge de votre association, et sans doute le plus jeune d'entre nous, je parlais de Pierre Magnard. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois présent. Et quand j'ai vu que tu étais dans la salle, ça m'a provoqué quelques remous. Philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Eh bien, si l'on essaie de penser sa vie, on doit, quand on a atteint un certain âge, ne plus simplement écrire les livres que l'université nous demande d'écrire pour devenir universitaire, si je n'étais pas clair, vous me le diriez. Si on veut que philosopher ce soit penser sa vie, eh bien vient un âge où on a envie d'écrire sur ce qui nous touche au plus près. Et moi qui balance entre deux âges, je me suis rendu compte que depuis déjà pas mal d'années, quand on me demandait comment j'allais, je répondais, rassurez-vous si vous êtes inquiet, généralement que ça allait bien, mais que j'étais fatigué, crevé, épuisé, rétamé, lessivé, au bout du rouleau. Bon. Et donc, si philosopher, c'est penser sa vie, il me fallait à un certain moment essayer de penser ce qui m'arrive, comme à beaucoup de nos contemporains, c'est-à-dire cette fatigue. Cette fatigue dont on n'espère plus vraiment récupérer, car il y a le vert paradis des fatigues enfantines. Et l'enfant, certes, parfois est fatigué, mais allez, une bonne nuit de sommeil, et il est reparti au monde, à la connaissance du monde, à la joie d'être au monde. Mais vient un âge où l'on pense que l'on ne récupérera plus jamais complètement de sa fatigue. Le sentiment pérenne d'une inadéquation, le sentiment durable que quelque chose comme un délier, une légèreté, une fraîcheur, une légèreté du jarret ou de la pensée, eh bien, sont peut-être perdus. Et donc, je me suis dit qu'il fallait peut-être philosopher sur la fatigue, avec pour inspirateur ce mot, je trouve magnifique, de Proust, qui disait « Les idées sont les succès d'années des chagrins. Les idées sont les succès d'années des chagrins. Et quand un chagrin se transforme en idée, eh bien, il fait déjà moins mal et même se transforme en une sorte de joie. Les idées sont les succès d'années des chagrins. Et quand un chagrin se transforme en idée, il fait déjà moins mal et même se transforme en une sorte de joie. » Alors j'avais un peu de chagrin d'être fatigué, de constater que beaucoup de mes contemporains le sont. Et en philosophant sur ce chagrin qu'est la fatigue, eh bien, j'ai trouvé quelque chose comme une sorte de joie. Ce chagrin, il venait de deux choses. D'abord, en effet, que beaucoup de nos contemporains souffrent de fatigue. Nous sommes peut-être dans ce qu'un de mes collègues appelait la société de la fatigue. Mais aussi cet autre chagrin qui fait que notre société a tendance à considérer toutes les fatigues comme de mauvaises choses. Or ça me fait de la peine. Car dans cette causerie matinale, j'espère vous convaincre qu'il existe de bonnes fatigues et que la fatigue n'est pas toujours un mal, qu'il existe même des fatigues joyeuses. Il me fallait donc philosopher sur la fatigue et je le faisais avec un autre inspirateur, Jean de La Fontaine, mon maître Jean de La Fontaine. Je suis né à Château-Thierry comme lui, enfin tout le monde s'en fout, mais c'est tout de même pour moi une chose importante. Et je me souviens de cette fable où La Fontaine dit qu'un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, faisait aux animaux la guerre. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Nul mais n'excitait plus leur envie. Ni loup, ni renard n'épiait plus la douce proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant, plus de joie. Le lion rassembla ses amis pour leur dire « Mes chers amis ». C'est évidemment le début de la fable de La Fontaine qui s'appelle « Les animaux malades de la peste ». Et je me disais qu'après quelques déformations de la fable, osant un peu inquiéter le fabuleux fabuliste, eh bien on pourrait dire d'aujourd'hui la chose suivante. Un mal qui répand la terreur, la fatigue, puisqu'il faut l'appeler par son nom, faisait aux êtres humains la guerre. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Nul mais n'excitait plus leur envie, ni loup ni renard n'épiait plus la douce proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant, plus de joie. Le roi tint conseil en la nécessité présente et dit « Mes chers amis ». La seule différence, ou plutôt les deux seules différences qu'il y a entre la peste et la fatigue, c'est premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la peste est toujours un mal, alors que la fatigue n'est pas toujours un mal. Et deuxièmement, que si dans la fable de La Fontaine, on nous dit que le roi, enfin le lion, a rassemblé les animaux malades de la peste pour essayer de trouver une solution à cette terrible peste, il ne me semble pas que notre roi d'aujourd'hui, notre lion d'aujourd'hui, notre Jupiter d'aujourd'hui, ait jamais songé à rassembler les hommes qui souffrent de la fatigue aujourd'hui pour leur dire « mes chers amis ». Notre roi, notre lion, notre Jupiter a joué pendant pas mal de temps la comédie de l'infatigabilité. Il est en marche, éternellement jeune. Il n'a besoin que de 2 ou 3 heures de sommeil par nuit. Il est jupitérien et on ne croit pas que les dieux grecs ou romains aient jamais été fatigués. Alors que le dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, le dieu de Luc, Matthieu et de Jean, le dieu de Mohamed ou de Mohamed a peut-être connu la fatigue, parce qu'il y a le vendredi, le samedi ou le dimanche, pour quelque chose qu'on peut appeler le Shabbat. Et en effet, petit chagrin de voir qu'apparemment, notre société pense que la fatigue est quelque chose qu'il ne faut pas avouer, toujours le signe d'une impuissance, toujours le signe d'une vulnérabilité. Je ne crois pas que notre Jupiter, en effet, ait songé à faire ce que le lion a fait, c'est-à-dire rassembler ceux qui souffrent pour essayer de trouver une solution à cette souffrance, pour essayer de d'y remédier. Aussi, il y a un jour, c'était en fin octobre, on a appris que Macron était fatigué et il l'a avoué, je suis crevé. Et il a pris un week-end de repos avec sa belle au bord de la mer. Mais apparemment, il a suffi de ce week-end pour qu'il se remette en marche, infatigable, inlassable. Et donc, en effet, la fatigue est une réalité très présente dans notre monde. Je le répète, un collègue a pu écrire un livre qui s'appelle « La société de la fatigue ». Et je crois nécessaire de philosopher sur elle et de le faire en effet essayant de déployer les différentes nuances de la fatigue. Car oui, si la peste est toujours mauvaise, la fatigue ne l'est pas toujours. Il existe de bonnes fatigues, il existe de mauvaises fatigues. Et entre elles deux, évidemment, tout un nuancier, tout un dégradé, tout un herbier de fatigue. Voilà pourquoi dans le livre que j'ai écrit sur la fatigue, eh bien, j'ai cru en effet, comme dans tout livre un peu philosophique, distinguer trois parties. Et voilà pourquoi j'ai cru devoir l'appeler « ode à la fatigue ». Parce qu'une ode, souvenez-vous de vos souvenirs du latin, souvenez-vous de vos souvenirs de Pindare, hein, une ode chez Pindare, hein, l'ode pindarique, une ode, ça a trois parties. La strophe, où l'on parle, où je vais parler des bonnes fatigues, l'antistrophe, où je vais parler des mauvaises fatigues, et enfin l'épode finale, où je vais parler des fatigues qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, les fatigues intermédiaires, la plupart des fatigues que nous vivons, je crois, pour essayer d'en tirer un certain nombre de leçons. Et donc voilà mon programme en trois points. Strophe, bonne fatigue. Antistrophe, mauvaise fatigue. Épode finale, les fatigues intermédiaires pour en tirer les leçons. Mais avant que de me lancer dans cet exposé, je voudrais, pour essayer de rendre hommage à ce que vous vivez, telle me paraît être la tâche du philosophe, essayer de rendre hommage à ce que les hommes vivent, essayer de mettre en mots ce qu'ils vivent. Essayez de rendre hommage, essayez de mettre en mots ce que vous vivez sans doute, c'est-à-dire la présence lancinante de la fatigue à l'hôpital. Car en effet, l'hôpital est un lieu de fatigue. Patients comme soignants sont fatigués. Les patients sont fatigués parce qu'ils sont malades et que beaucoup de maladies fatiguent. Et les soignants sont fatigués parce que soigner, ce n'est pas toujours facile. Et en effet, moi qui m'occupe un peu d'éthique médicale, je m'inquiète beaucoup d'une certaine mode de l'éthique médicale qui conduirait à ce que l'éthique médicale se réduise à une déontologie. Rien ne m'inquiète plus, pardon, il y a des choses qui m'inquiètent beaucoup plus, la perte d'un être qu'on aime, un désamour, la souffrance d'un enfant, ça m'inquiète beaucoup plus que ce que je vais dire, c'était un abus de langage, mais rien ne m'inquiète plus dans ma vie professionnelle que ce que je pourrais appeler le devenir déontologique de l'éthique. Par là j'entends le fait que ceux qui s'occupent d'éthique sont de plus en plus dans la déontologie, c'est-à-dire dans le discours sur les devoirs. Déon en grec c'est le devoir, et donc la déontologie c'est le discours sur les devoirs. Et en effet, souvent, ceux qui s'occupent d'éthique, qui ne sont ni patients ni soignants, eh bien, se laissent aller un peu trop facilement à un discours déontologique, où ils disent aux soignants, voilà ce que vous devez faire, et voilà ce que vous devez ne pas faire. Cette position m'inquiète, car je crois qu'il est facile, en effet, de dire aux soignants qu'ils doivent respecter tous les patients. Mieux qu'ils doivent ajouter à ce respect un je ne sais quoi, un presque rien, qu'on pourrait nommer la sollicitude, l'empathie. Cela est facile à dire, mais moins facile à faire. Et en effet, m'inquiète ce devenir déontologique de l'éthique, parce que je crois que respecter les patients et même leur donner un peu de sollicitude et d'empathie. Quand on est en pleine forme, un beau matin de mai, et qu'on rencontre un petit patient gratifiant, oh ben là, c'est pas difficile. Mais respecter le patient et même lui donner de la sollicitude et de l'empathie, un triste après-midi pluvieux de novembre ou de février, quand on est épuisé de fatigue et qu'on rencontre un petit patient, non pas gratifiant, mais agressif, c'est beaucoup plus difficile. Et l'éthique, pour moi, ça doit être la prise en compte, justement, de tout ce qui empêche la réalisation des belles valeurs de l'éthique. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez. Et notamment cette fatigue lancinante qui est présente de plus en plus à l'hôpital. Et avant, je vais faire ma strophe, mon antistrophe et mon épode, j'aimerais vous inviter à méditer sur deux journées un peu prototypiques du soignant. Et en un sens, que vous soyez enseignant ou soignant, eh bien, vous soignez. Certains prennent soin du corps, d'autres prennent soin de l'âme. La culture, c'est la cultura animi, hein, la culture de l'âme, comme d'autres cultivent les champs. Eh bien, j'aimerais réfléchir à deux journées un peu prototypiques du soignant, plutôt de la soignante, on est un peu obligé de le dire au féminin, pour la raison que disait tout à l'heure messieurs. Oui, ce beau matin de mai, notre soignante s'est réveillée de très bonne humeur. Elle avait fort bien dormi et dans une forme olympique. Elle ouvre la fenêtre et voit que le temps est exactement ce qu'elle avait envie qu'il fût. Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui ? Le petit déjeuner familial se passe dans une ambiance harmonieuse. Il y a un côté amiricoré. Enfin, elle se regarde dans le miroir et s'y trouve belle, s'y aime. Elle sort dans les rues de la ville pour se rendre à son EHPAD, bon, ou à sa MAS, ou à son CHU. EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. MAS, maison d'accueil spécialisée. CHU, CHU, centre hospitalier universitaire. Il fait beau. Elle aime la vie. Elle la considère comme un cadeau plutôt que comme un fardeau. Un inconnu lui offre des fleurs. Elle arrive à l'EHPAD, on lui fait compliment pour sa nouvelle coiffure, on lui dit que le rapport qu'elle a fait sur tel patient est un modèle, que le patron lui a dit que ce qui était fait était excellent. C'est vrai, oui. On lui dit que les RTT qu'elle avait posés, réduction du temps de travail, dans l'espoir d'un week-end gastronomico, touristico, érotique, en plage de Lacano avec son amoureux, lui sont accordés. Elle entre dans la chambre en pleine forme et là l'attend un patient qui, bien que fatigué, bien que souffrant, a quand même la capacité de lui dire sa gratitude. Hein. « Ah, j'aime bien quand c'est vous qui venez, vous êtes mon petit rayon de soleil. Mais non, je fais que mon métier. Oh non, vous faites beaucoup plus. » Lorsque la rencontre du soignant et du soigné, c'est la rencontre d'une forme et d'une gratitude, forme du côté du soignant, gratitude du côté du soigné, eh bien là, la réalisation des belles valeurs de l'éthique est une spontanéité. Il n'y a pas besoin de philosopher ou de s'inscrire à un master d'éthique pour être dans le respect de la dignité de la personne, voire dans la sollicitude, voire dans l'empathie. Mais ça, c'était un beau matin de mai. Et l'on peut imaginer en effet qu'un triste jour de novembre ou de février pluvieux, les choses puissent aller assez différemment, n'est-ce pas ? Février, novembre, pourquoi ? Bon, nul mois n'est maudit, mais novembre, c'est un peu difficile. Hein. On est dans ce que les anciens appelaient des jours angoisseux. Hein, angoisse, c'est angustia, c'est le resserrement. En effet, il y a de moins en moins de lumière. Alors vous allez me dire qu'il y en a encore moins en décembre. Oui, mais en décembre, il y a déjà la lumière de Noël, bon, et puis les magasins sont ouverts le dimanche matin, enfin bon. C'est parfois difficile, novembre. Et puis février, alors janvier, d'accord, mais janvier, on est encore sous le coup de Noël, et puis il y a quand même l'épiphanie, puis la galette des rois, enfin, mais février est assez difficile aussi, bon, et il peut en effet pleuvoir beaucoup. Alors elle s'est réveillée en effet fatiguée, elle avait mal dormi. Elle avait connu des moments d'insomnie, vous savez, ces moments où l'on exagère la gravité des situations qu'on vit, où l'on ne trouve point d'issue, ces moments où on connaît ce que Baudelaire appelle ces vagues terreurs qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse. Elle s'est réveillée déjà très fatiguée, elle ouvre la fenêtre, le temps n'est pas du tout ce qu'elle aurait aimé qu'il fût, il fait un temps vraiment terrible ce matin. Dès le petit déjeuner, tension familiale visible. C'est pas vrai, ta mère vient encore dimanche, oui, et toi, ton frère qui n'apporte jamais de cadeau. Enfin, elle se regarde dans le miroir et ne s'y aime point. Vous savez ce mot génial de Cocteau, les miroirs feraient bien de réfléchir avant de nous renvoyer notre image. Mais les miroirs ne réfléchissent pas avant de réfléchir. Et c'est douloureux que de ne point s'aimer dans le miroir. Elle sort dans les rues de la ville, nul inconnu ne lui offre des fleurs, ce que vous regardant je trouve scandaleux, mais enfin c'est ainsi. Très vite, elle a affaire à ce que Giono appelle le démon mesquin. Texte génial de Jean Giono, où Giono dit que le démon est mesquin. Giono ne croyait ni à Dieu ni à diable. Mais cependant, il a pris en charge cette figure d'un être diabolique, démoniaque, qui voudrait que l'on ne fasse pas ce qu'on doit faire et que l'on fasse ce qu'on doit ne pas faire. Ça s'appelle le diable, hein, celui qui est capable de faire deux. Hein, le symbole, symbolein, c'est mettre ensemble. Le diable, diabolème, c'est celui qui sépare. Et il veut séparer l'homme de sa destination. On ne peut ni croire en Dieu ni en diable. Et cependant, c'est ce qu'a fait Giono, prendre en charge littérairement cette figure d'un être qui voudrait qu'on ne fasse pas ce qu'on doit faire et qu'on fasse ce qu'on doit ne pas faire. Et Giono de dire que le démon est mesquin. C'est dans toutes les petites mesquineries de la vie quotidienne qu'il se loge, hein, il se loge dans les détails. Et en effet, très vite, notre aide-soignante, par exemple, se rend compte qu'elle a la chaussure droite qui fuit. Toute la journée, elle aura affaire à ce floc-floc désagréable. Encore si les deux chaussures étaient mouillées, ça crée une certaine symétrie. Mais la sécheresse du pied gauche rend encore plus insupportable la mesquinerie de ce floc-floc. Le démon est mesquin. Et elle arrive déjà fatiguée, de mauvaise humeur, ennuyée à l'hôpital. Là, on ne remarque même pas sa nouvelle coiffure. Et alors, on lui dit que le rapport qu'elle a fait sur tel patient est complètement à refaire. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas utilisé le bon logiciel. On ne mesure pas à quel point une des sources principales des fatigues des soignants d'aujourd'hui, ce sont les tracasseries administratives. Vous avez de plus en plus de paperasseries, comme si tout le temps qu'il faut passer pour faire savoir empêchait le savoir-faire, hein, voyez, distinction un peu facile. Et il est vrai que les tracasseries administratives pèsent sur les épaules des soignants de plus en plus, à quel point que parfois ils ont l'impression d'être éloignés du cœur de leur métier. Hein, comme Madame de Rênal se sent éloignée du cœur de Julien Sorel. Hein. Il est là tout près, et en même temps elle sent qu'il échappe. Et vous avez des soignantes qui aiment leur métier, et le métier c'est la rencontre du patient, mais on leur impose toute une série de tâches qui les éloignent du cœur de leur métier. Tracasseries administratives. En fin de carrière, il y a des soignantes qui finalement ne sont pas mécontentes alors qu'elles adoraient leur métier de le quitter parce qu'elles n'auront plus toutes ces tâches administratives qui n'étaient pas le cœur de leur métier, voyez. Et alors voilà, en plus, donc c'est pas vrai, il faut que je refasse tout, j'en ai marre de ces tracasseries administratives. Et puis en plus on lui dit que les RTT qu'elle avait posés dans l'espoir d'un week-end gastronomico-touristico-érotique à Lacano lui sont refusés. Elle est fatiguée, de mauvaise humeur, épuisée. Elle vit la vie plutôt comme un fardeau, comme un cadeau. Et elle entre dans la chambre où ne l'attend pas le patient gratifiant de la veille, mais un patient agressif, qui n'a d'autre manière de montrer sa souffrance que l'agressivité. Je crois assez profond ce passage du dessin animé Kirikou, où Kirikou a enfin réponse à la question qu'il pose à tout le village depuis bien longtemps. Pourquoi Karaba, la sorcière, est-elle méchante ? Karaba est une sorcière qui tyrannise ce petit village africain, mais Kirikou, qui n'est pas grand mais qui est vaillant, Kirikou n'est pas grand mais il est vaillant, Kirikou mon ami, eh bien le jeune Kirikou veut savoir pourquoi Karaba la sorcière est-elle méchante. Personne n'a réponse à la question posée jusqu'à ce que Kirikou retrouve son grand-père qui lui a réponse à la question. Grand-père, pourquoi Karaba la sorcière est-elle méchante ? Réponse du grand-père, parce qu'elle souffre Kirikou. Elle a une épine qui lui est plantée très profondément dans la nuque, qui l'a fait tellement souffrir qu'elle ne sait montrer sa souffrance autrement que par l'agressivité. Alors, loin de moi l'idée de dire que la souffrance justifie la méchanceté, hein, que la malchance justifie la méchanceté, que le miséreux a le droit d'être misérable, si vous voulez, hein, que la violence subie justifie la violence agie. Point du tout, point du tout. Cependant, même si on n'égitime pas ce cheminement qui conduit de la souffrance à la méchanceté, souvent, il faut essayer de le comprendre. Comprendre sans légitimer. Et oui, parfois, certains patients ont d'autres manières de montrer leur souffrance que l'agressivité. Eh bien, quand la rencontre du soignant et du soigné, c'est la rencontre d'une mauvaise fatigue du côté du soignant et d'une agressivité du côté du soigné, alors là, c'est beaucoup plus difficile, hein, d'être dans le respect de la dignité, dans la sollicitude, d'être dans l'empathie. Et en effet, je crois que, bien sûr, il y a le beau matin de mai où il y a rencontre d'une forme et d'une gratitude, mais il y a aussi le triste après-midi de novembre où il y a la rencontre d'un épuisement et d'une agressivité. Au fond, la rencontre de deux fatigues. Et la fatigue est un phénomène très présent à l'hôpital. Vous savez que c'est l'endroit, la profession plutôt, où il y a le plus de burn-out. Le burn-out étant la forme extrême de la mauvaise fatigue. Et sans doute parce que quand on est soignant, on n'ose pas toujours se plaindre. Parce que celui qui a légitimité à se plaindre, c'est le patient. Mais moi qui suis soignant, je n'ai pas le droit de me plaindre. Tout se passe comme si le soignant, qui est là pour se fatiguer pour les autres, n'avait pas le droit d'être fatigué des autres, vous voyez ? Or, il faut avouer que parfois, quand on est soignant, on est fatigué des autres. Les autres nous fatiguent, nous épuisent, nous exaspèrent et nous agacent. Eh bien, pour éviter ce devenir déontologique de l'éthique, qui voudrait que l'éthique se réduisît à de beaux discours, de belles injonctions sur ce qu'il ne faut pas faire et ne pas faire, il faut essayer d'aller sur le terrain et de comprendre ce qui souvent empêche les soignants d'être à la hauteur de ce qu'ils voudraient faire. Et très souvent, leur vient cette plainte, je suis fatigué, je suis épuisé, je ne suis pas reconnu. Et c'est précisément parce que, vous l'avez dit, je m'occupe d'un master de philo, mais avec un parcours éthique médical et hospitalier appliqué, dont les étudiants sont des soignants en formation continue, alors soignants au sens très large du terme, il y a des médecins à peu près la moitié, et des non-médecins à peu près la moitié, donc infirmières, sages-femmes, kinés, directrices de masse, etc. Eh bien, c'est parce que précisément mes étudiants en formation continue, soignantes, m'ont parlé de cette fatigue que j'ai eu envie d'essayer de lui rendre hommage. Et donc, d'écrire une ode à la fatigue, de vous la proposer comme ça. Et cette ode à la fatigue, comme toute ode, eh bien, a trois parties. Et donc, la strophe, l'antistrophe et l'épode. La strophe. Dans cette strophe, parlons des bonnes fatigues. Car heureusement, alors que la peste est toujours mauvaise, la fatigue peut être bonne. La bonne fatigue, prenons des exemples, c'est la fatigue du sportif vainqueur. La bonne fatigue, c'est la fatigue des amoureux qui se sont aimés toute la nuit. La bonne fatigue, c'est la fatigue du travailleur qui a l'impression du travail bien fait ou du devoir accompli. Voilà évidemment trois personnages très fatigués, car pour gagner le match, il a fallu que le sportif donne toutes ses forces et même celles qu'il n'avait point. Les amoureux, à la fin d'une nuit d'amour, sont évidemment fatigués. Ils ont cueilli dans les bras l'un de l'autre les doux fruits d'amour, et puis se sont un peu endormis. Et puis l'un des deux a réveillé l'autre, et de nouveau, ils ont cueilli les doux fruits d'amour dans les bras l'un de l'autre, selon des protocoles un peu différents. Bon. Après une nuit d'amour de ce genre, on a très peu dormi, on est fatigué. Oui, mais ma foi, quelle joie! Et puis le travailleur, en effet, pour bien faire son travail, ou pour bien faire son devoir, doit donner toutes ses forces, et peut-être même au-delà. Ces trois personnages sont fatigués. Mais leur fatigue est bonne, car la joie de la victoire, pour le premier, la joie de l'amour, pour le deuxième, le plaisir moral d'être comme on devait être, pour le troisième, fomente déjà la restauration des forces qui avaient été perdues dans le jeu, dans l'amour, dans le travail. Je parle en effet de la joie de gagner, de la joie d'aimer et du plaisir moral de faire son devoir. Car j'ai conscience que le travail, c'est pas toujours de la joie. Moi, j'ai la chance d'aimer beaucoup mon travail et j'y ai beaucoup de joie, mais pas toujours, il faut le reconnaître, n'est-ce pas ? Et donc, réservons la notion de joie plutôt au match gagné et à la nuit d'amour. Et en effet, à la fin d'un match gagné, le sportif devrait ne plus pouvoir marcher. Il a couru 80 minutes après un ballon ovale, 90 minutes après un ballon rond. Il a donné toutes ses forces, il les perclut, il ne devrait même plus pouvoir marcher. Mais le simple fait d'avoir gagné, voyez, lui fait oublier cette fatigue. Et il saute dans les bras de ses collègues. Il est capable de faire un tour d'honneur et une troisième mi-temps, alors qu'il ne le devrait pas. De même, après une nuit d'amour, on est évidemment fatigué. Oui, mais la joie d'aimer et d'être aimé, justement, dilate les quelques forces qui restent encore. Car il reste presque plus de forces, mais celles qui restent sont dilatées par la joie, car la joie a une puissance dilatatrice. La joie, c'était considéré par les anciens comme la dilatatio animae, la dilatation de l'âme. Et en effet, quand on est joyeux, on est dilaté. La joie, la jubilation, la jouissance, c'est une ouverture qui va jusqu'à l'éclatement. C'est évidemment le contraire exact de l'angoisse, qui est au contraire la rétractatio animae. Vous voyez, angoisse, ça vient de angustia, qui veut dire resserrement, étranglement, parce que ça vient soi-même de angere, A-N-G-E-R-E, qui veut dire serrer, étrangler, resserrer. Angere a donné angoisse, mais il a donné aussi angine, hein. Et l'angine, qu'elle soit de la gorge ou de la poitrine, c'est un resserrement. Eh bien, l'angoisse aussi, c'est un resserrement. Hein. Voilà pourquoi Baudelaire est le plus grand poète de l'angoisse. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, l'impression d'une oppression qui me rétracte. Quand on est angoissé, je dirais qu'on est centripète. Alors que quand on est joyeux, au contraire, on est centrifuge. Étrange appellation. Je ne pense pas qu'il soit courant que sous le marché couvert, les gens qui font leurs courses disent « Tiens, j'ai vu Madame Chose, elle était très centripète. Et j'ai vu Monsieur Truc, il était centrifuge. » Et pourtant, quand nous sommes angoissés, nous sommes centripètes. Et quand nous sommes joyeux, nous sommes centrifuges. Et en effet, si Baudelaire est le plus grand poète de l'angoisse, La Fontaine est le plus grand poète de la joie. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, il ouvre un large bec. Il laisse tomber sa proie. Vous allez me dire que j'ai oublié un vers, que j'ai sucré un vers. Car dans la fable, c'est « à ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. » Il laisse tomber sa proie. Autrement dit, s'il ouvre un large bec, c'est pour montrer sa belle voix, parce que le renard lui a dit « si votre ramage se rapporte à votre plumage. » Voilà. Cependant, je pense que même s'il n'y avait pas eu de fromage, même s'il n'y avait pas eu de libido camemberti chez le renard, et même s'il n'y avait pas eu cette habileté qui fait que le renard invite le corbeau à ouvrir un large bec, ce que cet imbécile va faire, il est évident que quand on est joyeux, on ouvre un large bec. Car quand on est joyeux, on est dilaté. Imaginez qu'un flatteur habile vous dise demain matin, alors pas le bolos, mais la star de l'hôpital ou du lycée, vous regarde un peu bizarrement. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais pas, je te trouve un charme aujourd'hui. Arrête, sans mentir. Si... Tu sais ce que m'a dit un tel? Et en effet, quand on « je t'aime », ça veut dire « m'aimes-tu ». Je t'aime. Si l'autre enregistre simplement l'information, « je t'aime », c'est raté. Mais si l'autre vous dit « moi aussi, je t'aime », c'est pas vrai. On est incrédule. Et en effet, à ces mots, on ne sent pas de joie. Et quand on ne se sent pas de joie, on ouvre un large bec. Rappelez-vous la joie présidentielle qui nous fut montrée un jour de juillet 1998. La France est en finale de la Coupe du Monde de football, comme disait mon grand-père, contre le Brésil. Et un peu miraculeusement, la France mène 1-0, puis 2-0, grâce à deux têtes de Zidane. Mais évidemment, on a très peur que le Brésil, la meilleure équipe du monde, se réveille et que, comme d'habitude, on perde à la fin. C'est Coluche qui disait « le foot, c'est un sport qui joue à 11 et la France perd à la fin ». Parce qu'elle a toujours perdu à la fin. Et voilà-t-il pas qu'à peu près 20 minutes avant la fin, un certain Emmanuel Petit marque un but. Et c'est là qu'on comprend qu'on a gagné, selon la formule connue. Et on a vu la joie présidentielle. À ce but, le Chirac ne se sent pas de joie. Il ouvre un large bec. La joie, la jouissance, la jubilation, c'est la dilatatio animae. Et en effet, il a donné toutes ses forces dans le match, il n'en a presque plus. Mais la joie d'avoir gagné les dilate. Même chose dans l'amour. Bien sûr, j'ai très peu dormi cette nuit, mais elle m'aime et je l'aime. Alors là, on va au travail avec une allégresse qui fait qu'on peut supporter même les patients les plus désagréables. Le travail bien fait, le devoir accompli ne donne pas toujours cette jubilation, ne donne pas toujours lieu à cette dilatation de l'âme que je vois dans la joie. Mais il donne lieu à ce que Kant nous invite peut-être à appeler un plaisir moral. Kant passe pour un philosophe très rigoureux, même très rigoriste. Quand on pense à des philosophes du plaisir, on ne pense pas forcément à Emmanuel Kant. Éventuellement, on penserait plutôt à Épicure, voire à Spinoza. Bon. Mais Kant, même si sa morale est très rigoureuse, laisse la possibilité d'un plaisir moral. Et le plaisir moral, c'est, bon, je le résume, au fond, le sentiment d'être enfin juste, le sentiment d'être enfin adéquat, le sentiment que l'écart abyssal qui demeure entre ce que je suis et ce que je devrais être, eh bien, pour une fois, est aboli. Kant a fait toute une philosophie, comme on dit, il m'en a fait une coqueluche, Kant nous a fait toute une philosophie de cet écart abyssal qui demeure entre ce que l'homme est et ce qu'il devrait être, entre l'être et le devoir être. Mais heureusement qu'il arrive des moments où, étonnamment, on se rend compte qu'on a été comme on devait être. Je dirais qu'on est une heureuse surprise pour soi-même. On est une heureuse surprise pour soi-même. Le plaisir moral, c'est un plaisir qui surgit du fait qu'il n'a pas été recherché. C'est pas que j'ai fait une bonne action pour éprouver du plaisir. Sinon, là, je serais dans le calcul, dans l'intérêt. Non, mais j'ai fait une bonne action parce que c'était mon devoir. Et, étonnamment, comme une sorte de grâce, m'est venu le sentiment d'un plaisir. hein, le sentiment que je, d'une certaine, d'une estime possible de moi-même. Il y a un écart abyssal, impossible à combler entre ce que je suis et ce que je dois être. Et puis tout d'un coup, j'ai été juste. Et bien ça, c'est le plaisir moral chez Kant. Et bien on peut se dire qu'à la fin d'une journée, bah oui, là j'ai été comme je devais être. Alors il ne faut pas tout de suite trop s'en complaire, hein. Sinon parce qu'après on risque d'essayer de retrouver ce plaisir. À ce moment-là, on ne l'aura plus, hein. Le plaisir moral est quand même assez rare chez Kant, hein. Mais il existe quand même, et en effet, le sentiment d'une adéquation, le sentiment d'une justesse, voyez, j'ai été juste, j'ai été comme je devais être, donne un plaisir qui là encore fait que même si on ne va pas dormir beaucoup, le lendemain on va se réveiller heureux. Récemment j'avais des mémoires à lire, j'étais déjà bien fatigué, il m'en restait encore deux, il est minuit et demi à peu près, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me couche tout de suite parce que je suis vraiment fatigué, puis je finirai les mémoires demain matin, ou est-ce que, allez, un petit café, un petit tour dans le jardin, une petite discussion avec le chat, et puis je finis mes deux mémoires. C'est ce que j'ai fait, et je me suis couché fatigué, mais avec le sentiment, vous voyez, du devoir accompli. Et alors, en effet, le plaisir moral, la joie, font qu'on va dormir du sommeil du juste. Et le sommeil du juste est un sommeil qui n'a pas besoin d'être long pour être récupérateur, vous voyez. Après un match gagné, après une nuit d'amour, ça, on est fatigué. Après un travail long mais bien fait, eh bien, on va dormir du sommeil du juste. Et le sommeil du juste est un sommeil qui n'a pas besoin d'être long pour être récupérateur, vous voyez. Et alors voilà ce que c'est qu'en effet la bonne fatigue. C'est, je dirais, une fatigue du corps, mais non point de l'âme. Alors, je ne suis pas dualiste du tout, mais là on peut utiliser cette distinction. Le corps est fatigué, mais l'âme est rafraîchie par la victoire, par l'amour ou par la conscience d'une adéquation. Voyez, et c'est ça la bonne fatigue. Le sommeil à ce moment-là n'est pas un refuge. Voyez, ce vers quoi on va pour essayer d'oublier les mauvaises fatigues, la dureté de la vie, le sommeil est presque une récompense. Et il est heureux, il est calme, même s'il n'est pas très long. Alors, ces bonnes fatigues ne résultent pas évidemment que du match gagné, que de l'amour partagé, que du travail bien fait, mais elles résultent souvent des activités qu'on sait choisies. Voyez, parce que, de même qu'on peut distinguer entre la solitude subie et la solitude choisie, de même, on peut peut-être distinguer entre la fatigue subie et la fatigue choisie. Je veux dire par là qu'une solitude choisie, ça donne beaucoup de plaisir. Une solitude choisie est provisoire. Donc, j'avais envie d'être seul, enfin seul. Quand on est seul, on n'a plus à jouer la comédie, on n'a plus à subir l'indifférence ou l'indiscrétion des autres. Donc, c'est ce que disait Guitry, hein. Enfin seul. Et quand je rentre chez moi, que je ferme la porte, j'ai l'impression d'enfermer tous les autres dehors. Et je peux faire ce que je veux, je peux dire oh oh, je peux dire ah ah, je peux dire le monologue de Charles Lequin, vous qui sous ces voûtes, et me rendre compte que de ces vers, je n'en connais qu'un. Je peux lire, je peux chanter. Donc, sentiment d'être à soi-même, voyez. Et si ça ne dure pas trop longtemps, c'est très agréable. Mais une solitude imposée et durable, ça c'est terrible, hein. C'est terrible. Eh bien, de même qu'il faut distinguer entre la solitude choisie et la solitude imposée, de même, on peut distinguer peut-être entre la fatigue choisie et la fatigue imposée. Et ce que je vois, c'est que beaucoup de nos contemporains essaient d'échapper aux mauvaises fatigues qui leur sont imposées par un travail qu'ils n'aiment pas vraiment, en faisant du marathon le week-end, en faisant des activités qu'on ne leur a pas imposées. Voyez. Et en effet, quand une activité est choisie, librement ou bien librement acceptée, eh bien, elle a beaucoup plus de chances de fomenter de bonnes fatigues que de mauvaises fatigues. Alors, les bonnes fatigues, je dirais que c'est aussi les fatigues de l'enfance. Les enfants connaissent la fatigue, bien sûr, mais sont de bonnes fatigues parce qu'ils s'arrêtent de courir, de jouer, de connaître le monde quand ils n'en peuvent plus. Et puis, ils s'endorment très vite. Enfin, pas toujours, hein, mais enfin, quand même souvent. Pas les tout bébés, mais les enfants qui ne sont plus dans l'angoisse, mais dans le rire aux anges. Bon. Alors, est-ce qu'on est condamné, après qu'on n'est plus enfant, à ne plus avoir ce genre de bonne fatigue? C'est vrai que la qualité du sommeil, je crois, change définitivement quand on a des enfants. Parce que même si on est avec l'autre, bien sûr, on vit pour soi, enfin, on vit pour l'autre. Mais quand arrive le premier enfant, voilà. On ne vit plus que pour soi, on vit pour quelqu'un d'autre. Et alors, il y a toujours le qui-vive. Alors peut-être que monsieur roupille, mais heureusement qu'aujourd'hui les choses ont changé, et puis que beaucoup d'hommes en effet changent les couches et se lèvent. Mais vous voyez, on est dans l'alerte, bon, il pleure, et finalement le sommeil sera... Alors est-ce que quand on est plus jeune, on n'aura plus jamais... Si, on peut retrouver le vert paradis des amours enfantines, justement en choisissant des activités que nul nous l'impose. Nous impose. Et ça, je dirais que c'est ça qui devrait rester dans la vie. Hein. François Mitterrand avait dit « Il n'y a pas de raison que la vie devienne l'annexe du travail ». Je trouve cette formule profonde. Et en effet, on a l'impression aujourd'hui que la vie, c'est plus que l'annexe du travail, c'est-à-dire vivre vraiment pour soi et pratiquer les activités vraiment importantes. On a l'impression qu'il faut se battre pour le faire. Eh bien, faisons l'éloge de ce que les anciens appelaient l'osium ou la scolae, c'est-à-dire la disponibilité à l'essentiel. On a traduit osium, T-I-U-M, par loisir. Mais loisir, ça fait penser à Euro Disney, donc c'est pas forcément ça. Après, on a traduit par loisir studieux, mais aujourd'hui, les latinistes traduisent osium par disponibilité. Hein. Je n'ai pas eu le loisir de m'en occuper, c'est-à-dire je n'ai pas eu la disponibilité. C'est la disponibilité à l'essentiel. Et scolé, qui a donné école, veut dire la même chose. Hein. Eh bien, il faudrait que dans notre vie, nous ayons des moments pour être disponibles à l'essentiel. Et là, on va retrouver ce vert paradis des fatigues enfantines, parce que je m'amuse, et parce que je lis des livres que personne ne m'oblige à lire, parce que j'ai des conversations hein, extrêmement agréables, parce que je fais la cuisine pour des gens que j'aime. Heureusement qu'il existe de bonnes fatigues après qu'on a quitté l'enfance. Mais malheureusement, antistrophe, beaucoup de nos contemporains me semblent connaître plutôt de mauvaises fatigues que de bonnes fatigues. Et par symétrie, on pourrait donner dans un premier temps trois exemples de mauvaise fatigue. La mauvaise fatigue du sportif vaincu. La mauvaise fatigue de l'amant qui n'est pas victorieux. Je ne suis pas trop précis. La mauvaise fatigue de celui qui a l'impression du travail mal fait, du devoir inachevé. Eh bien, voilà trois personnages fatigués, mais plutôt de mauvaise fatigue, car chez eux, ce n'est pas simplement le corps qui est fatigué, c'est l'âme qui l'est aussi. Hein, je mesure le degré de mauvaiseté d'une fatigue au degré de lassitude de la vie qu'elle engendre. Si j'étais pas clair, vous me le diriez. Hein. Cette mauvaise fatigue, c'est une fatigue comme lassitude. On est là d'être soi. On est peut-être même là d'être, n'est-ce pas ? Bref, c'est l'âme qui est fatiguée et pas simplement le corps. Et en effet, le sportif vaincu est épuisé du simple fait qu'il a perdu, vous voyez. On voit ces footballeurs qui ont perdu et plusieurs fois récemment, là il y a eu d'immenses surprises, des équipes qui croyaient avoir gagné et, dans les arrêts de jeu, bon, et vous les voyez accablés. Ils ne peuvent plus, ils sont allongés sur le terrain, ils ne peuvent plus bouger. Hein. Immédiatement après la défaite, une chape de plomb tombe sur les épaules parce qu'il y a le désespoir, le chagrin, la tristesse de la défaite. L'amant qui n'est pas victorieux, je ne crois pas du tout que le but de l'amour soit forcément la victoire, comme malheureusement notre société nous fait croire. Mais c'est vrai qu'on voit « Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. » C'est Heine et c'est Schumann au merveilleux mois de mai. Alors que tous les bourgeons éclosent. Là aussi, dans mon cœur, l'amour est né. Hein, c'est ce que montrent Heine et Schumann. Mais on a à peu près la même chose dans un passage du Walt Disney, Bambi. Bon, je mêle définitivement les références nobles et les références moins nobles. Hein. Il y a du Kirikou, il y a du Kant. Il y a du Heine et du Walt Disney. Mais il y a le moment, vous savez, au moment du printemps, où tous les animaux batifolent. Et on a l'impression qu'il y a une puissance de vie qui fait monter la sève dans les arbres, qui fait bourgeonner les végétaux, et qui fait aussi monter la sève dans les corps des animaux. Et l'homme impuissant se sent exclu de cette puissance, voyez, de cette libido universelle. Hein, et ça donne le sentiment d'un exil, ou alors le sentiment qu'on est aimé, mais qu'on ne l'est plus. Immédiatement, bah oui, on a une chape de plomb, le sentiment qu'on ne comprend pas cette vie. Et puis alors le travail mal fait, ou le devoir pas accompli. Et c'est vrai que malheureusement, dans le milieu du travail, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plus souvent de mauvaise fatigue que de bonne fatigue. Et c'est à ça qu'il faut que je consacre un peu mon industrie, parce qu'en effet, il me semble que le monde du travail fomente actuellement beaucoup de fatigue, le burn-out hein, en étant la forme extrême. Mais je dirais qu'avant le burn-out, souvent, il y a une mauvaise fatigue qui sont installées et qu'on est dans un monde qui cultive la performance de telle sorte que nous sommes tous invités à essayer de cacher nos fatigues, hein, comme si avouer sa fatigue, c'était avouer sa finitude et que, ma foi, quand on se donne pour patron un infatigable Jupiter, eh bien, avouer qu'on est fatigué, c'est se trouver sur le bord du chemin. Se trouver sur le bord du chemin. Et alors, en effet, on a l'impression que beaucoup de nos contemporains ont un point de côté à l'âme. Vous savez, quand, un point de côté, c'est quand on ne trouve pas le bon rythme. Alors là, ce n'est pas un point de côté au corps, c'est un point de côté à l'âme. C'est-à-dire que je n'arrive pas à suivre mon époque. Mon époque me demande d'aller de plus en plus vite. Elle fait de mon adaptabilité le critère de ma dignité. Pour être digne d'être, pour réussir en société, il faut que je montre que je suis infiniment adaptable. Et ça, il y a un moment où ça fatigue, où ça épuise. Voyez, alors, est-ce que je veux dire que nous sommes dans une société où les hommes sont plus fatigués que dans les sociétés d'hier? Non. Méfions-nous des charmes de la nostalgie, ce qui veut dire qu'elle n'est pas sans charme, et évitons de dire rituellement que c'était mieux avant. Non, les hommes du 19e siècle connaissaient la fatigue. La vie d'un paysan corrézien, c'était le cas de mes arrière-grands-parents, au début du 20e siècle, c'était une vie épuisante. C'était un peu la vie du pauvre Martin, pauvre misère, dont nous parle Brassens dans une de ses plus belles chansons, hein. Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un doux chant, avec au cœur un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. De l'aurore jusqu'au couchant, en tout lieu, par tous les temps, il retournait le chant des autres, sans jamais laisser voir ni l'air jaloux, ni l'air content. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. En plus, ce n'était même pas son chant à lui. Hein. Et les dernières strophes qui sont bouleversantes. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant, de labourer son dernier chant, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dors sous la terre, dors sous le temps. Cette chanson m'a toujours bouleversé, vous voyez, tous ces anonymes qui ont trimé. Et je crois en effet qu'aucun d'entre nous ne supporterait la journée d'un paysan de l'époque. Mon père était né en 1925 et donc en Corrèze, et donc il a connu dans son adolescence les moissons à l'époque où il n'y avait pas encore la mécanisation. Eh bien, c'était absolument épuisant. Et en effet, ces gens-là finissaient leur journée éreintés, cassés, courbés, prostrés. Prostrés, ça vient de prosterner, hein. Comme si on les obligeait de se prosterner à Gaïa, à la déesse Terre, vous voyez, et ils finissaient non seulement leur journée, mais leur vie comme ça, et la vie devait être bien fatigante pour qu'ils la quittent si vite. Donc, méfions-nous de cette idée, c'est peut-être des enfants gâtés, hein. Nous sommes peut-être des enfants gâtés quand nous disons, mais vraiment, avant, les hommes prenaient le temps de vivre, et nous nous sommes épuisés. Cependant, ce discours doit être nuancé, parce que comme le dit très bien Orwell, dans je ne sais plus quel livre, ne mesurons pas la peine et la fatigue des paysans du 19e siècle, mais eux avaient quelque chose que nous n'avons plus. Premièrement, le sentiment d'une certaine cohérence du monde. Deuxièmement, l'espoir que leurs enfants seraient plus heureux qu'eux. Or, nous avons perdu ces deux choses-là, incontestablement. Hein. L'avenir nous paraît plutôt à craindre qu'à espérer. C'est le réchauffement climatique et des choses comme ça. On a l'impression que les hommes politiques sont là pour essayer de faire en sorte que les lendemains ne déchantent pas. L'idée que les lendemains allaient chanter, ça c'est complètement oublié. Hein. Et puis surtout cette idée de cohérence, parce que le monde des paysans ou le monde des artisans, de l'autre côté dans ma famille, à Château-Thierry, on est cordonnier, eh bien... C'est un monde, bien sûr, fatigant, mais un monde où il y a une certaine cohérence, une certaine régularité, le retour du même, vous voyez. La répétition des tâches, la pérennité des objets, toujours connu mon grand-père avec le même paletot, les mêmes outils, Eh bien, c'est une espèce de socle de repos, vous voyez. On peut se reposer sur cette régularité. Or, aujourd'hui, on a perdu complètement ça, parce que dans le milieu du travail, justement, ça ne cesse de changer. Hein, on ne mesure pas à quel point le monde a changé. Quand on est passé d'une époque où il y avait 95% de chances qu'un enfant fît le même métier que ses parents, à une époque, c'est la nôtre, où il y a 95% de risque qu'il fasse un tout autre métier, voire qu'il change plusieurs fois de métier, voire qu'il fasse un métier qui n'existe pas encore, vous voyez ? Eh bien, ça, c'est extrêmement épuisant, parce qu'en effet, on doit sans cesse s'adapter, sans cesse changer. Rien ne m'épuise plus, moi. Alors, j'aime